Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Trapanel, premier mouvement, 15e épisode ce soir avec une émission exclusivement consacrée aux lectures, hein, déjà présentes dans les épisodes précédents. Les lectures d'extraits d'autobiographies de musiciennes et de musiciens ont été choisies pour leur rapport avec le sujet qui nous concerne, à savoir l'apprentissage de la musique. Mais de manière plus générale, il sera question de premiers pas, de rencontres décisives, de moments charnières où toute une vie peut quelquefois basculer. Le tout raconté de l'intérieur et à la première personne par les principaux intéressés. À l'exception de Charlie Mingus qui, lui, on va le voir, utilise la troisième personne pour parler a posteriori du jeune homme qu'il était. Le voyage commence à Crowley, à l'ouest de l'Angleterre. Nous sommes à l'orée des années 70 et la personne qui nous fait partager ses souvenirs d'adolescence avait alors pour meilleur ami un certain Robert Smith. C'est sur Trapanel et c'est maintenant. Extrait de l'autobiographie de Lowell Tollhurst, Cured, To Imaginary Boys. À l'automne, j'ai intégré une nouvelle école, un collège catholique expérimental appelé Notre-Dame, qui avait été créé par un réformateur social, Lord Longford. Tous les gamins qui avaient fréquenté les écoles primaires catholiques du coin étaient inscrits au collège de Notre-Dame, et je m'étais fait un nouvel ami, il s'appelait Michael Dempsey. À ce moment-là, mes cheveux étaient presque aussi longs que ceux de mes idoles du rock'n'roll et Michael s'était dit qu'un gars qui portait les cheveux aussi longs devait forcément être réglo. J'affichais ma personnalité un peu étrange et prônais ma différence. Michael et moi partagions la même passion pour la musique. Le collège de Notre-Dame était en tout point opposé à St. Francis. Il était libéral et progressiste. Les élèves bénéficiaient de plus de liberté et la pédagogie était radicalement différente. Tous les sujets étaient regroupés sous la même appellation d'études interculturelles. Et à la place des sempiternels professeurs faisant le cours devant un tableau noir, on travaillait tous ensemble sur divers sujets, par groupe. On bénéficiait d'une grande liberté et les élèves les plus prometteurs étaient autorisés à travailler tout seuls. Je travaillais en général à la bibliothèque avec Michael et Robert, bien qu'on fût tous trois d'excellents élèves et qu'on aurait très bien pu travailler seuls. Un beau jour, Robert me prit à part dans un coin de la bibliothèque et me demanda « Est-ce que tu aimes Jimi Hendrix ?»« Hendrix ? J'adore Jimi Hendrix. J'ai un énorme poster de lui sur le mur de ma chambre. » J'avais également ajouté que j'étais membre officiel de son fan club en Grande-Bretagne. Les yeux de Robert s'étaient alors illuminés car il reconnaissait un de ses pairs. « Moi aussi !»« Tu sais, je parie que personne d'autre n'a entendu parler de lui dans l'école. » Je lui ai dit. En fait, mon grand frère possède 2-3 trucs de Hendrix. Are You Experienced It une tuerie, Robert avait ajouté, plein d'enthousiasme. Ah ouais, moi j'ai acheté Axis Bold as Love pour £1 chez Radio Wentos. Et c'est comme ça que notre lien fut à nouveau scellé. Pendant la pause déjeuner, on était autorisé à utiliser la salle d'art pour écouter des vinyles sur la platine de tourne-disque mise à notre disposition. Et je suis officieusement devenu le DJ de l'école. Je passais les 33 tours que les autres élèves apportaient. Mais j'avais bien sûr mes titres préférés. Mon vieux copain Robert et mon nouvel acolyte Michael venaient souvent me voir et me donner des conseils sur les disques à passer. Je n'ai pas tardé à savoir que non seulement Robert et Michael écoutaient de la bonne musique, mais qu'ils étaient également en train d'apprendre à en faire. Une fois par semaine, ils avaient le droit de se rendre dans la salle de musique et d'utiliser les instruments de l'école. On avait aussi accès à une chaîne stéréo que Robert connectait à sa guitare électrique pour que le son se diffuse à travers les enceintes. « Tu sais jouer d'un instrument, Lol ?» m'a-t-il demandé. « Oui, ai-je menti. » De la batterie. Dans ce cas, peut-être que tu voudrais te joindre à Michael et à moi la prochaine fois qu'on se rend dans la salle de musique, a proposé Robert. Je pense qu'ils ont une batterie, je suis presque sûr que j'en ai vu une, au fond d'un placard la dernière fois qu'on y était. D'accord, ça marche, je serai là. Je me dépêchais d'aller à la bibliothèque le jour même pour emprunter le livre de Buddy Rich sur les rudiments de la pratique de la caisse claire. Arrivé chez moi, j'ai sorti les baguettes que mon frère aîné avait laissées à la maison avant de partir vivre en Australie. J'ai dévoré le livre tout en battant le rythme sur mon coussin. Le lendemain, de retour dans la salle de musique, j'ai sorti la vieille batterie de l'école. C'était un début. Lorsque les gens me demandent quand les cures se sont formées, je me réfère souvent à ce jour de 1972 à Notre-Dame, lorsque Robert, Michael et moi avons improvisé pour la première fois. C'était la toute première formation du groupe, qui a enregistré le premier single, Killing in Arab. La cymbale que j'ai utilisée pour cette chanson a même été empruntée à la vieille batterie de l'école.
Trapanel.
Extrait de l'autobiographie de Neil Young, une autobiographie. Vous êtes déjà demandé ce qu'il faut pour écrire une chanson. J'aimerais pouvoir vous donner une liste des ingrédients nécessaires, mais là, tout de suite, rien de précis ne me vient à l'esprit. Il me semble que c'est le produit de l'expérience et d'un alignement de circonstances cosmiques. Par là, j'entends ce qu'on est et comment on se sent à un moment donné. J'ai écrit des tas de chansons, certaines sont nulles, d'autres géniales, d'autres encore seulement passables. Enfin, tout ça, c'est l'opinion des autres. Pour moi, elles sont comme mes enfants. Elles naissent, elles grandissent, et elles sont lâchées dans le vaste monde et doivent se débrouiller toutes seules. Ce n'est pas un endroit facile pour une chanson, le monde. Ça peut se retrouver sur une cassette jetée à la poubelle, ou sur un CD abandonné par quelqu'un, ou même dans un bac de disques bradés. Ça peut finir en air oublié qui se languit sur un vinyle à la décharge ou, avec un peu de chance, sur l'étagère d'un disquaire indépendant. Pire encore, ça peut être réduit à rien de plus qu'un fichier MP3 parmi des centaines d'autres, en conservant moins de 5% de sa sonorité originale. Quoi qu'il en soit, il a fallu que quelqu'un la crée, et c'est le sujet qui nous occupe maintenant. Je n'ai pas composé une seule chanson depuis que j'ai arrêté de fumer de l'herbe en janvier 2011, de sorte que nous nous trouvons actuellement au cœur d'une expérience de chimie à grande échelle. Quand j'en écris une, ça part d'une sensation. J'ai entendu quelque chose dans ma tête ou je l'ai ressenti dans mon cœur. Ou bien, j'ai juste pris une guitare et je me suis mis à jouer sans idée précise. Beaucoup d'airs sont nés comme ça. Quand on fait ça, on ne pense pas. Penser, c'est ce qu'il y a de pire pour composer une chanson. Tu te mets à jouer et quelque chose de nouveau surgit. D'où ça vient, on s'en fiche. Tu continues et tu développes. C'est comme ça que je procède. Je ne juge jamais une chanson qui se forme, j'y crois. C'est venu comme une offrande quand j'ai attrapé mon instrument de musique et c'est passé à travers moi pendant que je jouais. Les accords et la mélodie viennent d'apparaître et ce n'est pas le moment pour les interrogations, les analyses. Ce qu'il faut maintenant, c'est faire connaissance avec l'air et ne pas le modifier avant même de bien le connaître. Prendre garde de ne pas lui faire peur, sans ça il s'en ira. Telle est ma méthode, ou du moins l'une de mes méthodes. Je pensais à l'instant que je suis en train de me mettre énormément la pression pour pondre une nouvelle chanson. Ça ne marche jamais. Les chansons sont comme des lapins qui aiment sortir de leur terrier quand on ne regarde pas de ce côté-là. Donc si on reste là à attendre, les chansons s'enfonceront dans leur galerie et émergeront ailleurs, à un endroit où on ne peut pas les voir. En ce moment, j'ai l'impression d'être debout devant un terrier de chansons. Ça ne donnera jamais rien de bon. Et plus on va en parler, pire ça deviendra. Et c'est pour ça que nous allons tout de suite changer de sujet.
Consonne.
T.
Consonne.
R.
Voyelle.
A.
Consonne.
P.
Voyelle.
A.
Consonne.
N.
Voyelle.
E.
Consonne.
L.
Extrait de l'autobiographie de Charles Mingus, Moins qu'un chien. L'été de ses 17 ans, il se fit cireur. Il marchait au moins 25 à 30 km par jour avec sa caisse à cirage, quadrillant la ville de rue en rue jusqu'au boulevard principal de Compton City ou jusqu'au centre de Los Angeles. Parfois, les week-ends, c'était des 80 km. Santa Monica aller-retour en patin à roulettes. Il cessa de fréquenter ses lieux de rencontre habituels et ses camarades ne le virent presque plus. Il avait une drôle de boîte de cireur bricolée qu'il avait trouvée un jour dans le garage. Quelques chiffons, des brosses prises à la maison, du cirage acheté au bazar du coin, sa ceinture en guise de courroie et il partait dans la rue chercher la pratique. Un beau jour, à l'angle de la 103e rue et de San Pedro, alors qu'adossé à un réverbère, il lisait un livre en attendant les clients, il vit venir vers lui un jeune noir grand et élégant. « C'est bien toi qui joues du violoncelle, petit gars ?» Tu te souviens de moi, Buddy Collette. Buddy présenta ses amis, Major Harrison, Charles Martin, Crosby Lewis et Ralph Bledsoe. Tous riaient ou souriaient finement. Charles ne voyait pas ce qu'il y avait de drôle. « Ça te plairait de gagner du fric et de te saper à la dernière mode ?» demanda Buddy. « Regarde-toi, tu as l'air d'un clochard. »« Ça m'intéresse plus les fringues, » dit Charles. « Et les filles, ça te plairait d'avoir les plus chouettes filles de Watts ?» Charles dit qu'en effet, il n'y verrait aucun inconvénient. Alors, viens dans le syndicat. Mon petit copain savait que Buddy ne faisait pas allusion au local 47, le syndicat officiel des musiciens. Le syndicat était un club privé de Watts, né des cotisations prélevées auprès des cireurs, des crieurs de journaux et des vendeurs de boissons rafraîchissantes, en échange de leur protection assurée contre les mauvais garçons tels que Feisty et sa bande. La victime n'avait qu'à dire « j'ai payé ma cotisation au syndicat » et elle était tirée d'affaire. Le syndicat avait depuis peu commencé à s'intéresser au monde de la musique, et ses soirées particulières, ses réunions de toutes sortes, donnaient ample matière au commérage et aux conjectures de Watts. Débrouille-toi pour trouver une basse, dit Buddy à mon petit copain, et on te fera entrer dans l'orchestre swing du syndicat. On a besoin de toi. Une basse ? Une basse, oui. Tu es noir. Quel que soit ton talent, tu ne perceras jamais dans la musique. Si tu veux jouer, joue d'un instrument de noir. Tu ne feras jamais claquer un violoncelle, Charlie, alors apprends la basse et joue slap. Charles fut séduit par la façon de parler de Buddy. Il admirait sa démarche fière, ses façons d'adulte et sa grande élégance physique. De retour à la maison, il aborda la question avec son père en évoquant tout l'argent qu'il pourrait gagner s'il échangeait son violoncelle contre une basse. Comme toujours, ses parents n'avaient pas d'opinion précise, mais ils consentirent à l'aider dans l'espoir que ce serait une bonne solution. Le lendemain, Charles et Papa Mingus se rendirent ensemble dans le centre de Los Angeles, entrèrent chez Schirmer dans Broadway et échangèrent le violoncelle contre une contrebasse neuve de fabrication allemande pour laquelle Papa dut cracher $130 supplémentaires. Comme il avait hâte de commencer à sortir avec les plus jolies filles de Watts, mon petit copain téléphona à Britt Woodman pour lui demander le numéro de Joe Comfort. Joe était le bassiste des frères Woodman, qui avait le meilleur orchestre de jazz de jeunes de Watts. « Comment est-ce qu'on apprend à jouer de la basse, Joe ?»« Tu en as une ?»« Yeah. » »« Branche la radio et accompagne ce que tu entends. C'est comme ça que j'ai commencé. » Charles ne savait pas le nom des cordes ni comment accorder son instrument, mais il se remit à travailler pendant des heures dans le living room, à côté du vieux poste de radio en ébénisterie, un RCA Victor. Après quelques semaines de ces exercices, il sentit que ça venait. Avec l'aide des doigtés de violoncelle, il arrivait à suivre ce qu'il entendait. Il rappela Joe Comfort. « Je crois que je commence à savoir jouer. Comment est-ce que je m'accorde ?»« Comment t'es-tu accordé jusqu'ici ?»« J'ai laissé l'instrument tel qu'il était quand je l'ai acheté. De haut en bas, ça fait « boum, 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 boum. » Et Charles fredonna « mi, la, ré, sol. » »« Mais t'es complètement à l'envers, mon vieux. C'est l'accord de violon, ça. Il faut tout recommencer. Accorde-toi sol, ré, la, mi. » C'est-à-dire, Joe Comfort chanta les notes. « Accorde-toi ainsi et continue à travailler avec la radio, avec des disques aussi. Quand je te verrai dans la rue, je te donnerai une leçon. » « Tu veux que j'enlève la housse de ma basse en pleine rue ?» demanda Charles, étonné. « Non, tu joueras avec la housse. On apprend mieux ainsi. Quand on l'enlève, ça devient facile comme tout. » Charles devait découvrir par la suite que Joe pouvait jouer de n'importe quel instrument. Il jouait d'oreille, c'était son truc. Il n'essayait même pas de lire, mais écoutait les différentes parties et trouvait d'instinct les notes qui convenaient. Britt disait de lui qu'il entendait une note avant même qu'elle n'entre en vibration. « Mais quiconque n'a pas l'oreille de Joe, ajoutait Britt, a intérêt à apprendre à lire un peu. » « De toute façon, ne t'en fais pas, Charlie. Ce qu'on demande au bassiste, c'est surtout de garder le tempo. »«
Trapanel. »
Extrait de l'autobiographie de Joey Starr, « Mauvaise réputation. » Et c'est ici que se produit une rencontre définitive, importante. Ça se passe dans le métro. Je suis avec Lou Chen, on rentre à Saint-Denis par la ligne 13, la dernière rame, avec personne ou presque à bord. On charge à la bombe. On y va, Lou Chen et moi, ce train qui nous ramène chez nous, on le repeint. À une station monte un mec de Saint-Ouen, la station avant la nôtre. Ce mec, c'est Johnny Go. Pas un intello, plutôt un boxeur, panthère noire, ras du front. Un gars qui rigole jamais. On ne l'apprécie pas vraiment. Avec un pote nommé Destroyman, Johnny Go a sorti le premier maxi français rap de l'histoire, en balance. Un disque nul. Mais voilà qu'au fil des stations, dans l'odeur d'essence des bombes, Johnny Go se met à nous tenir un discours de naze. Tout y passe. Déjà, il nous demande si on croit en Dieu. Pas plus qu'à mon slip, lui répond. Le gars s'adresse à nous d'une façon super condescendante. Il nous casse les couilles sous prétexte qu'il a fait un 45 tours. Mais ce mec, c'est quoi ? Rien. Alors que nous, on contrôle. On est des graffiti kings. Moi, je contrôle la ligne 13, cet autre aussi. Qui c'est ce mec ? Quand il rappe au terrain vague de la chapelle, tout le monde rigole ou s'en bat. Il veut quoi ? « Quoi que vous fassiez, prêche Johnny Go, si vous ne croyez pas en Dieu, vous ne laisserez pas de traces. »« Regarde mec, elle est là ma trace. NTM, t'as vu ?» Oui, pontifie le nigo, vous pouvez écrire sur les murs, mais vous ne laisserez aucune trace. Et là, le gars se met à nous expliquer que, contrairement au graffiti, le rap est une branche du hip-hop réservée à une élite. Alors là, Clonigo avait réveillé un monstre, en Cool Chain et en moi, de manière simultanée. Nous échangeons un seul regard par-dessus nos bombes. Écoute-moi bien, je te dis juste une chose, si moi je prends un micro un jour, toi prends une chaise.
Non, non, vas-y, arrête ça. Vas-y, jette-la directement, putain.
On est rentré à Saint-Denis avec Cool Chain. Le soir même, dans la cuisine de ses parents, on a commencé à écrire des conneries. Le premier texte s'appelait « Par ma voix, par ses scratchs ». Les trois premiers morceaux parlaient de graffiti. On inventait des trucs genre « On a tellement la grosse tête que dans notre couronne, on pourrait mettre toutes vos têtes ». Le quatrième morceau, écrit ce jour-là, s'intitule « J'ai le touché, nique ta mère ». À partir de là, tout ce qu'on va écrire sera édité. Tout commence là.
Ah oui, d'accord, donc genre... Attends. Trapanel. Trop cool.
Extrait de l'autobiographie de Nina Simone, « Ne me quittez pas ». On a donc supposé, dès mon tout jeune âge, que j'aurais des talents musicaux, même si je n'avais pas encore la force d'enfoncer les touches de l'harmonium. Un jour, j'ai été assez grande pour grimper sur le tabouret et m'asseoir devant le clavier. J'avais 2 ans et demi. Personne n'a rien remarqué tout de suite. Mais quelques mois plus tard, maman, en entrant dans le salon, m'a entendu jouer un de ses cantiques préférés. « God be with you till we'll meet again » en fa. De surprise, elle a failli avoir une attaque. Personne ne m'avait encore entendu jouer de l'harmonium, ni même tapoter dessus pour voir quel son en sortirait. Toute la famille en est restée ébahie. La petite Eunice, qu'il n'avait encore jamais vue assise devant l'instrument, jouait des cantiques entiers sans une faute. Papa s'est contenté de hocher la tête en souriant. Pour maman, il n'y avait qu'une explication possible. J'avais reçu un don de Dieu.
Trapanel.
La philosophie de la famille était qu'on n'éclipse jamais personne. On exploite seulement les talents reçus et on doit en faire profiter tout le monde, ne pas les cacher jalousement comme un trésor. Aussi, quand je suis arrivé, que je jouais d'oreille des cantiques entiers, la première leçon qu'on m'a enseignée a été de ne pas avoir la grosse tête. Et je l'ai appliquée. Dès que les gens de ma ville m'ont entendu jouer, ils m'ont appelé le petit prodige, mais je ne connaissais pas le sens de ce mot et personne à la maison n'a jugé bon de me l'expliquer.
Trapanel.
Ma mère avait une expression pour toute musique qui n'était pas religieuse, mais de ce monde. Elle la qualifiait de matérielle. Si je jouais un air que j'avais entendu quelque part, elle me disait « Ne joue donc pas ces chansons matérielles ». Et longtemps, j'ai cru que « matériel » désignait un style de musique comme blues ou gospel. Peu après mes débuts au piano, maman m'a emmené à ses proches pour que je joue devant l'office. Je venais d'avoir 3 ans et mes jambes étaient trop courtes pour atteindre les pédales, mais je jouais quand même le cantique d'ouverture en guise d'introduction. Maman savait la sensation que son petit bout de fille créait chez les fidèles qui ne m'avaient encore jamais vu jouer et que c'était là une bonne manière d'attirer leur attention avant qu'elle commence son prêche. J'ai ainsi connu l'intérieur de nombreuses églises et me suis endormi sur la banquette arrière de nombreuses voitures quand on nous reconduisait le soir à la maison, maman et moi. Dès l'âge de 6 ans, j'étais la pianiste attitrée de notre église à Trionne. En ce temps-là, la musique ne me demandait aucun effort, le piano était un jouet merveilleux qui m'occupait pendant des heures sans que je m'en lasse. Et même si maman s'efforçait d'orienter ma musique dans une direction bien particulière, je n'avais aucune préférence pour un style plutôt qu'un autre. En fait, j'aimais jouer le plus de styles différents possibles, tout en ouvrant l'œil au cas où maman se trouverait dans les parages quand je commençais à m'écarter de la voie divine.
Trapanel.
L'église était remplie à craquer par les dames de la paroisse et les saintes, qui toutes s'éventaient furieusement, pimpantes et immaculées dans leurs robes, leurs bas et leurs souliers blancs. Le pasteur commençait son prêche et le poursuivait au milieu des « Amen » et des « Oui Seigneur ». Et puis, quelqu'un commençait son témoignage de foi à grand renfort de cris et de gesticulations, parlant en langue, tandis que les éventails s'agitaient frénétiquement alentour, que des gens couraient tout le long de l'allée centrale, comme ça, spontanément, que d'autres criaient, louaient le Seigneur, et que le pasteur recueillait toute cette énergie spirituelle pour la renvoyer décuplée vers les fidèles. Parfois, il fallait emmener des femmes à l'hôpital, victimes de leur transport. Pendant ce temps-là, moi je jouais des gospels au piano. Un rythme répétitif qui faisait partie de l'ambiance. Quelqu'un entonnait un chant et je le reprenais en l'accompagnant. Parfois, la personne commençait à entrer en transe et mon rôle était de soutenir le rythme, de l'appuyer pour entretenir l'ambiance. C'était dur des fois de ne pas lâcher le clavier pour aller courir moi aussi dans l'allée. Après ces réunions, je rentrais chez moi à pied, la tête dans les nuages, grisée, enivrée par les cris, la danse, les chants. J'arrivais à la maison, je dormais comme une souche et, à mon réveil le lendemain matin, ma première pensée était de recommencer le soir même. Le gospel était essentiellement de l'improvisation à l'intérieur d'un cadre fixe, et il ne m'est jamais venu à l'idée de l'analyser. Cette musique faisait partie de l'église, qui faisait elle-même partie de la vie ordinaire, et personne ne se pose de questions sur sa façon de marcher, de respirer ou tout autre élément du quotidien. Toutefois, le gospel m'a fait découvrir l'improvisation. Comment façonner la musique en écho à un public et à l'inverse, façonner l'humeur d'un public en écho à ma musique. Quand je jouais, je pouvais faire ce que je voulais d'une assemblée de fidèles, tempérer ou exalter leur ardeur jusqu'à ce qu'ils baignent complètement dans la musique et l'ambiance générale. Bien sûr, Dieu, l'Église et ses ministres fournissaient l'inspiration spirituelle, mais la musique y était aussi pour quelque chose. Durant cette période, j'ai reçu un précieux enseignement en pratiquant une technique musicale totalement différente de la formation classique qui allait suivre. Au fil des ans, ce savoir m'est entré dans la peau au point de faire partie de moi-même. Un temps viendrait où je commencerai à chercher ma propre expression musicale et où les leçons tirées du gospel m'aideraient à la trouver.
C'est quoi la radio que tu préfères ?
Trapanel.
Extrait de l'autobiographie de Patti Smith, Just Kids. Au max, quelqu'un m'a demandé si j'étais androgyne. J'ai demandé ce qu'il entendait par là. Tu sais, comme Mick Jagger. J'en ai conclu que c'était sans doute cool. Je croyais que le mot voulait dire beau et laid en même temps. Mais quelle qu'en soit la signification, par la grâce d'une simple coupe de cheveux, je suis miraculeusement devenu androgyne du jour au lendemain. Les portes se sont soudain ouvertes. Jackie Curtis m'a demandé de jouer dans sa pièce Femme Fatale. Ça ne me posait pas de problème de remplacer un garçon, qui jouait l'homologue masculin de Penny Arcade. Avec un débit de mitraillette, je déclarais des vers tels que « il pouvait la prendre ou la laisser, il l'a pris et la laissa ». La Mama était l'un des premiers théâtres expérimentaux off-Broadway, mais un peu plus off que Broadway dans l'esprit. J'avais joué dans quelques pièces à la fac, tenu le rôle de Phèdre dans Hippolyte de Ripide et celui de Madame Dubonnet dans The Boyfriend. J'aimais bien le jeu en tant que tel, mais j'avais pour hantise la mémorisation et la couche de fond de teint que l'on doit porter sur scène. Au fond, je ne comprenais rien à l'avant-garde, mais je me disais que ce serait sympa de travailler avec Jackie et sa troupe. Elle m'a donné le rôle sans me faire passer d'audition, donc je ne savais pas vraiment dans quoi je mettais les pieds. Assise dans le hall, j'essayais de ne pas avoir l'air d'attendre Robert. Lorsqu'il disparaissait dans son labyrinthe de tapins, je m'inquiétais. Incapable de me concentrer, j'étais assise à ma place habituelle, penchée sur le cahier orange qui contenait mon cycle de poèmes pour Brian Jones. Je portais mon accoutrement estampillé « La mélodie du Sud », chapeau de paille, veste de frère lapin, bottes de chantier, pantalon fuseau. Et je m'acharnais sur la même strophe depuis des heures lorsque j'ai été interrompu par une voix étrangement familière. Qu'est-ce que tu fabriques, mon chou ? J'ai levé les yeux sur un inconnu qui portait les lunettes noires parfaites. J'écris. T'es poète ? Peut-être bien. J'ai ligoté sur ma chaise, l'air détaché comme si je ne l'avais pas reconnu, mais sa voix traînante et son sourire louche ne laissaient pas de place au doute. Je savais exactement à qui j'avais affaire. C'était le mec de Don't Look Back. L'autre, Bobby Newirth, le conciliateur provocateur. L'alter ego de Bob Dylan. C'était un peintre, un singer-songwriter et un aventurier. C'était le confident privilégié de nombreux grands esprits et musiciens de sa génération, un battement de cils avant la mienne. Pour dissimuler mon émotion, je me suis levé, j'ai hoché la tête et je me suis dirigé vers la porte sans dire au revoir. Il m'a hélé. Hey, « Hé, où est-ce que t'as appris à marcher comme ça ?» Je me suis retourné. Dans Don't Look Back. Avec un rire pour toute réponse, il m'a proposé d'aller prendre un shot de tequila avec lui au El Quichotte. Je n'étais pas buveuse, mais j'ai vidé un shot sans citron ni sel, juste pour avoir l'air cool. C'était facile de parler avec lui, et nous avons abordé une multitude de sujets, de Hank Williams à l'expressionnisme abstrait. Apparemment, il m'a prise en affection. Il m'a ôté mon carnet des mains et a commencé à le feuilleter. Il y a vu du potentiel, j'imagine, car il m'a dit « T'as jamais pensé à écrire des chansons ?» Je ne savais que répondre. « La prochaine fois que je te vois, je veux que tu me files une chanson », m'a-t-il lancé, comme nous quittions le bar. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Quand il est parti, j'ai fait le vœu de lui écrire une chanson. J'avais bricolé des paroles, par jeu, pour Matthew, et inventé quelques chansons pseudo-appalachiennes pour Harry. Mais je ne les trouvais pas terribles. Cette fois, j'avais une véritable mission et quelqu'un qui méritait que je mène cette mission à bien. Robert est rentré tard. Il était maussade et un peu fâché que j'ai bu des verres avec un inconnu. Mais le lendemain matin, il a reconnu que c'était motivant que quelqu'un comme Bob Newirth s'intéresse à mon travail. « Peut-être que c'est lui qui va réussir à te pousser à le faire », a-t-il dit. « Mais n'oublie jamais qui a été le premier à vouloir que tu chantes. » Robert avait toujours aimé ma voix. Lorsque nous vivions à Brooklyn, il me demandait de chanter pour l'endormir et je lui chantais les chansons de Piaf et les ballades de Child. « Je ne veux pas chanter, je veux simplement lui écrire des chansons. Je veux être poète, pas chanteuse. » « L'un n'empêche pas l'autre », a-t-il répliqué. Vous êtes sur Trapanel, c'est la fin de ce petit périple qui nous a fait arriver à New York sur les traces de Patti Smith. Mais le sujet n'est pas clos, il est même inépuisable puisque la plupart des autobiographies de musiciennes, de musiciens portent en elles ce passage initiatique. Les formes, les lieux, les époques diffèrent, mais le fond reste le même. Rien de surprenant donc dans le fait que cette série de lectures fasse l'objet d'une suite. En attendant, on va se quitter avec The Cure dans sa toute première période, évoquée par Lol Tollerst en début d'émission, avec Another Journey by Twain, un instrumental sorti en 1980 en face B du 45 Tours A Forest. A bientôt sur Trapanel.
A bientôt sur Trapanel.